Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, moins souriant que d'habitude, mais tellement important à mes yeux. Le harcèlement et la violence morale et sexuelle dans le sport, et notamment l'athlétisme. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir, devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Si vous voulez avoir plus de contenu sur tous ces sujets, vous pouvez aussi venir sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est bien entendu dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui donc, je vous le disais, un sujet grave, vraiment important, qui me tient vraiment à cœur. Tout est parti de quelques discussions. Ce qu'a fait cet entraîneur aurait pu m'arriver. Nous avons quitté ce club à cause des comportements d'un entraîneur, d'un dirigeant. Et puis, il y a eu ce documentaire, ce témoignage de jeunes filles qui explique ce qu'elles ont vécu. Ça m'a profondément remué en tant que papa notamment. Ma petite fille n'a que 5 ans, ma petite Camille, mais comment faire pour qu'un jour le sport qu'elle adore, peut-être, je ne sais pas ce qu'elle fera comme sport, mais en tout cas pour que ce sport ne devienne pas un cauchemar, que sa vie ne devienne pas un cauchemar par ce type de comportement, comme c'est devenu le cas pour mon invité du jour, Emma Oudiou. Emma est une athlète prometteuse, une championne, recordman de France junior, qui va dans les grands championnats, s'imagine au JO de Tokyo, puis Paris 2024. Mais ça, c'était son ancienne vie. Emma aime l'athlétisme, mais son combat, c'est maintenant de faire évoluer ce monde. Par son témoignage et celui des victimes, elle montre que la violence morale, physique, sexuelle est très ancrée dans l'athlétisme. Et pas seulement dans le très haut niveau, mais à tous les niveaux. Car nous avons parlé de l'INSEP, mais nous parlons aussi de choses qui arrivent dans des plus petits clubs. Nous avons parlé des relations entre ces jeunes athlètes et leurs entraîneurs, les présidents de clubs, les dirigeants, ainsi que les autres athlètes, notamment les garçons dans les groupes d'entraînement. L'image différente aussi des femmes et des hommes, notamment dans les stades, hein, où il y a vraiment une imagerie qui est vraiment différente. On a d'ailleurs parlé des tenues qui vont varier et aussi les conséquences que ça peut avoir sur la carrière de certaines jeunes femmes. Et puis aussi comment subir la pression et la douleur est ancrée dans le sport de haut niveau et semble normal et même le moyen d'accéder aux médailles espérées. Nous avons parlé d'engrenage psychologique, de l'impact que ça a sur ces jeunes femmes, comment elles affrontent ces événements, s'en relèvent, s'en sortent. Et bien entendu, j'ai demandé aussi à Emma quelles solutions elle voyait pour que le monde du sport évolue et que justement ça arrive de moins en moins. C'est un témoignage important pour moi, je l'ai placé en ce 8 mars qui est la journée internationale des femmes selon l'appellation officielle de l'ONU, mais aussi journée internationale des droits des femmes en France. Voilà, vous comprenez pourquoi ça compte pour moi et juste avant de vous partager cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif, de devenir moi aussi champion du monde de mon monde et continuer à vous proposer mes podcasts. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Emma.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Écoute, ça va très bien. Prêt à aborder une thématique qui est dure en fait, hein, mais qui est tellement importante. Je le dis parce que cet épisode en plus il est diffusé le 8 mars. Je tenais vraiment à avoir une invitée qui sur ce sujet-là, il y a des trucs à faire avancer. Et dans l'athlétisme, ton combat est vraiment très fort. Alors je vais te laisser te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour que les gens comprennent bien en fait qui tu es, quel est ton combat, d'où ça vient tout ça.
Alors donc je m'appelle Emma Oudiou, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans. J'ai fait 10 sélections en équipe de France sur du 3000 steeple ou du cross et je me suis entraînée pendant 3 ans à l'INSEP, donc qui est une grosse institution où il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent à Paris. Et en fait, malheureusement, et comme beaucoup de sportifs, j'ai vécu des violences pendant mon parcours. Et j'ai décidé, une fois que j'avais arrêté ma carrière, d'en parler. J'avais déjà commencé à en parler quand je courais encore, mais forcément c'est plus facile d'en parler quand tout est terminé. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, notamment à travers les réseaux sociaux et à travers mon documentaire dont on parlera, je pense, un peu plus, après.
Oui, alors documentaire, moi je le dis, qui m'a foutu les chocottes en tant que papa. Je le dis très clairement parce que moi, ma fille, elle a 5 ans. Je me dis peut-être qu'elle pourrait aller dans un club d'athlétisme plus tard parce que je me dis ça, c'est des belles valeurs, courir, de faire du sport et tout. Et puis là, quand je regarde ton documentaire et puis quand j'en parle un petit peu autour de moi, j'ai une autre personne qui me dit « Ah, mais moi, j'aurais pu vivre la même chose. » Puis j'ai une autre personne qui me dit bah, « On en connaît un dans notre club aussi. » Finalement, personne a dit grand-chose. Et là, d'un coup, toi, tu sors ces témoignages-là, ça fout les boules, quoi. Enfin, franchement, ça met en colère.
Ouais, complètement. C'est en fait ce qui est déjà, je trouve que les témoignages de ces filles, donc qui parlent des violences sexuelles qu'elles ont vécues malheureusement dans le milieu de l'athlé, ces témoignages sont hyper forts, hyper poignants et hyper révoltants. Mais ce qui est encore plus dramatique, j'ai envie de dire, c'est que il y a plein de filles qui viennent me parler sur Instagram pour me dire, beaucoup des filles, il y a quelques garçons, mais c'est vrai que c'est malheureusement les victimes, elles sont dans la majorité féminine. Il y a plein de filles qui viennent me dire qu'elles ont vécu la même chose, et il y a même des études maintenant qui sortent sur les violences sexuelles qui sont vécues dans le monde du sport, et ça concerne énormément de monde. Il y a un sportif ou sportif sur 7 qui vit des violences d'ordre sexuel avant ses 18 ans, donc on voit que c'est énorme.
Dans tous les sports, où il y a des sports qui sont plus touchés que d'autres?
Bah, c'est dans tous les sports. Après, ça va dépendre, par exemple, dans des sports comme la gymnastique où c'est des sports à maturité précoce. Là, on a des violences qui se font encore plus jeunes. Donc voilà, mais il n'y a aucun sport qui est épargné.
Ce qui m'a marqué, en fait, surtout, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est presque, alors pas inhérent, mais que la relation qui est entre les entraîneurs, les athlètes, surtout les jeunes athlètes, je dis pas que, enfin, c'est anormal que ça conduise à ça, mais qu'il y a tellement de temps passé ensemble, tellement d'emprise, etc., que j'ai l'impression que vous êtes emprisonné quand ça vous arrive, en fait. Que c'est vraiment un truc, vous êtes coincé. Enfin, c'est le sentiment que j'avais vraiment, quoi.
Ouais. Ben, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le monde du sport est un monde particulier, dans lequel, comme tu le dis très bien, il y a un maillage de violence qui se met en place avant d'arriver aux violences sexuelles. Il y a une forme d'emprise de la part du coach qui se met en place de manière très facile, parce que le coach a cette position presque paternelle, il a une position qui est au-dessus des athlètes. On passe énormément de temps avec notre coach. Moi, je sais qu'à l'époque, je passais plus de temps avec la personne qui m'entraînait plutôt qu'avec ma propre famille. On est jeune aussi, très souvent, et on a en plus de ça un rapport au corps qui est très particulier, parce qu'on nous apprend dès toutes petites que la douleur fait partie du parcours, que c'est normal. Et donc notre corps, à un moment donné, ne nous appartient plus vraiment, et donc c'est encore plus difficile de savoir mettre une limite et de savoir dire au coach ou à l'athlète, ou en tout cas à la personne qui peut potentiellement nous agresser, c'est très difficile de dire à cette personne-là non et d'imposer ses limites.
Sur les témoignages, c'est vrai que c'est vraiment abject ce qui se dit, ce qui se passe. Surtout en plus après que finalement, il y a du mal à ce qu'ils ne sont pas punis. Enfin, il y a une omerta déjà parce que ça ne se dit pas pour beaucoup. Et c'est les témoignages que j'avais eus. Mais aussi, en plus, quand ça se dit, il n'y a pas de sanctions, c'est vraiment compliqué, quoi.
Ouais, c'est très difficile. Il peut y avoir plusieurs recours pour pouvoir faire en sorte que ces personnes-là soient sanctionnées. Ça peut être un recours fédéral, administratif ou judiciaire. Et dans les trois cas, c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir des sanctions. Là, dans le documentaire, on parle à un moment donné d'un coach qui a agressé plusieurs athlètes qui étaient mineurs à l'époque des faits. Donc, ce coach-là a été condamné par la Fédération française d'athlé à ne plus pouvoir accéder à un stade ou à des fonctions d'entraîneur pendant 10 ans. Donc c'est déjà ça. Mais c'est vrai qu'on a d'autres cas où il se passe pas grand chose. Je pense à un Giscard Samba, par exemple, où il s'est pas passé énormément de choses. Ou alors c'est des personnes qui ensuite peuvent revenir sur un stade. Moi, l'entraîneur qui m'a agressé en 2014, pareil, c'est un entraîneur qui peut continuer à entraîner aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est très frustrant, parce qu'en tant que femme, on nous dit qu'il faut parler, qu'il faut libérer la parole. Mais d'un autre côté, on a des organismes qui ne nous écoutent pas forcément forcément, ou en tout cas qui prennent pas suffisamment en compte ce qu'on a vécu et la dangerosité des personnages.
Toi, tu te dis, en 2014, t'avais quel âge ?
J'étais un bébé athlète, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même majeure, mais j'étais un bébé athlète, j'étais junior encore.
Et il faut le dire, parce qu'on l'a pas dit, mais t'avais un excellent niveau, enfin, t'étais une athlète internationale.
Ouais, c'était pendant les championnats du monde, c'était mes premiers championnats du monde. J'arrive à battre le record de France junior lors de cette compétition-là, donc pendant les séries. Et c'est pendant la finale que tout s'est passé. Mais oui, j'avais un très bon niveau et ça m'a, je pense que ça m'a beaucoup coupé dans mon élan, tout ce qui s'est passé.
En plus, alors, il y a un truc qui se rajoute en plus, c'est que vous avez beaucoup de stages, vous voyagez beaucoup. Vous êtes beaucoup coupé des familles, vous êtes beaucoup entre vous, mais aussi avec ses entraîneurs, etc. Toi, les championnats du monde, ils étaient à l'étranger, j'imagine, à ce moment-là. Ça rajoute en plus, il y a les stages qui sont mentionnés aussi hein, dans ton documentaire, hein, ces périodes de stages, etc. Enfin, il y a vraiment tous les ingrédients pour que ça devienne horrible.
Ah oui, totalement. Je te rejoins entièrement. Là, par exemple, en 2014, les championnats du monde, ils étaient aux États-Unis. Donc, c'était une des premières fois de ma vie que je voyageais aussi loin. C'était quasiment à l'autre bout du monde. Et donc, on est complètement dépendant du staff, des entraîneurs et de personnes qui ont autorité sur nous. Donc, comme tu le dis très bien, tous les ingrédients sont réunis pour faciliter ce genre de violence.
On l'a dit parce que en fait, alors ceux qui sur ta chaîne YouTube, je crois que tu expliques tout, hein, ce qui t'arrive vraiment en 2014.
Ouais.
Tu peux en dire quelques mots pour que resituer ou pas
hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc en 2014, j'avais 19 ans, j'étais junior. Et je participais au championnat du monde d'athlétisme pour les juniors. Et en fait, on avait un entraîneur national qui était chargé de s'occuper des athlètes en demi-fond. Et donc, c'était notre référent et en l'occurrence, mon référent. Et ce qui se passe, c'est que juste avant ma finale, c'était lui qui était en charge de m'encadrer pour l'échauffement. Et donc, c'est lors de cet échauffement-là qu'il s'est permis d'avoir des gestes plus que déplacés à mon égard. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, j'avais conscience que ce qui s'était passé, c'était pas totalement normal, mais j'aurais jamais mis le terme d'agression sexuelle sur tout ça. Et c'est que 4 ans après, donc en 2018, que je prends conscience de la gravité de ce qui s'est passé et que je décide de porter plainte. Donc quand on va dire à des victimes, mais pourquoi elles parlent pas tout de suite, mais pourquoi elle a pas réagi, etc., c'est tout simplement parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe. Et c'est peut-être aussi plus facile pour nous, pour notre inconscient, de se dire non, mais ça va, c'est pas si grave, et donc de ne pas réagir. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi.
Et d'ailleurs, dans le documentaire, le premier témoignage, c'est elle est violée et elle le dit en fait. C'est que sur le coup, elle ne s'en rend même pas compte. C'est dans les années après, c'est le contre-coup, ce qui se passe, ces difficultés de relation globale où elle se rend compte qu'il y a un truc qui n'est vraiment pas normal, quoi.
Bien sûr. Et puis les mots agression sexuelle, viol, c'est des mots qui sont quand même très forts. Et donc, pour pouvoir se les approprier et s'avouer à soi-même que oui, on a été agressé, oui, on a été violé, c'est extrêmement difficile et ça peut prendre beaucoup de temps.
Alors, toi, tu étais à l'INSEP, mais ça, il n'y a pas que l'INSEP, en fait, faut bien le dire. Il y a une partie de l'INSEP parce que les problèmes, ils ont commencé avant pour toi.
Ouais, ça a commencé. J'ai eu beaucoup. Alors, c'était pas c'était pas de l'ordre des violences sexuelles. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé le haut niveau, donc moi j'ai commencé à Fontainebleau. Il y a un pôle d'entraînement à Fontainebleau. Et tout de suite, j'ai été baignée dans un monde très particulier où c'est la performance qui prime avant tout et où le coach, j'avais une relation, et d'ailleurs tout le groupe de filles avait une relation quand même très particulière à ce coach qui avait une aura et franchement, il nous aurait dit n'importe quoi. Je pense qu'on l'aurait fait. Il avait beaucoup d'emprise sur nous, et moi je sais que la chose sur laquelle il appuyait beaucoup, c'est que j'étais pas suffisamment solide mentalement, que j'étais trop faible, etc. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marquée et qui aujourd'hui, avec du recul, me paraît être quand même assez, assez violent. Et donc, tout de suite, ça a commencé quand j'ai commencé le haut niveau, j'avais 15-16 ans. Et donc, quand on est formaté là-dedans quand on a 15-16 ans, ben c'est très difficile après de s'en sortir. Et après, donc, ce schéma un peu de maltraitance a continué. Même, j'ai essayé de changer de coach, de changer de structure d'entraînement. Et ça continuait, donc, sur des choses, sur des leviers qui étaient différents. Mais ça a continué et j'ai vécu ce genre de maltraitance, malheureusement, tout au long de ma carrière.
J'ai vu, dans une petite vidéo, tu disais que quand tu rentres à l'INSEP, c'est 2018. Tu te dis, ça va changer les choses. Enfin, tu l'espères, en tout cas.
Ah oui, mais moi je suis persuadée que c'est la meilleure décision de ma vie, que l'INSEP, ça a tellement une réputation incroyable, on voit des champions toute la journée. Moi je suis persuadée que ça va me changer la vie et que c'est ce qui va me permettre de me propulser vers les Jeux Olympiques, vers Paris 2024. Ça, à l'époque, j'ai cette innocence, presque cette naïveté-là de penser que c'est ce qui va me permettre de performer, ouais.
Oui, parce que tu as 28 ans, hein, c'est ça, maintenant.
Oui, aujourd'hui, oui.
Ouais, les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'était, tu en avais plusieurs Olympiades que tu pouvais viser par rapport à ton niveau. Paris 2024, on le dit souvent, c'est un objectif long terme, mais pour des athlètes à l'INSEP, à l'époque, tout le monde devait rêver de ça, en fait.
Ah oui, bah oui, c'était Paris 2024. Entre-temps, il y a eu les Jeux de Tokyo. Donc pareil, c'était un objectif. Après, il y a eu le Covid, j'ai arrêté ma carrière, etc. Mais pour moi, c'était clair, c'était Tokyo 2020 et Paris 2024, le rêve d'absolument tout le monde, d'absolument tous les sportifs et toutes les sportives. Et bon, finalement, ça a été autrement. Mais ouais, c'est. Je pense que ça aussi, ce genre de choses, c'est important de le souligner aussi. Ce genre de rêve et ce genre d'objectif, on est tellement prêt à tout pour les atteindre qu'on accepte, je pense, énormément de choses. Ça a été mon cas. Et je pense que les entraîneurs et le staff ne se rendent pas compte de toute la pression, en fait, qu'il y a autour de ça et de tout ce que eux, du coup, de tout le pouvoir qu'ils ont sur nous. Et je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. Et encore, j'étais dans une position où à côté, j'avais des études, j'avais une famille qui n'était pas forcément à fond dans le sport. Et donc, si je faisais autre chose, ça s'arrêtait, mais il y en a qui ont une pression supplémentaire de la part de la famille, de l'extérieur, et ça, c'est extrêmement dangereux, je pense.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les familles qui investissent en disant, il y a les projets. Alors, dans l'athlétisme, on a moins la vision que dans le foot, où on dit projet Kylian. Maintenant, c'est les projets Kylian, avant, c'est les projets je sais pas quoi. Ouais. J'espère que mon fils va faire carrière. Et moi, j'ai fait 10 ans de foot. J'avais déjà quand j'étais gamin, je me rappelle des parents encore, tu vois, dans le souvenir, qui espéraient que leur gamin soit champion ou quoi que ce soit. Je les ai vus tellement souvent. Dans l'athlétisme, bon, il y a moins de richesses quand même, hein, à part pour certaines.
Oui.
Donc,
oui.
C'est pas tout à fait la même vision.
Totalement.
Et encore que, quand même, on peut toujours dire qu'il doit y avoir de la pression. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses. Parce que on parle des entraîneurs, mais on peut, dans ton documentaire, il y a aussi, comment ça s'appelle, il y a d'autres athlètes à l'INSEP aussi, il faut en parler.
Oui.
Et on en parlera parce que c'est important. Mais il y a aussi les dirigeants de club, présidents. J'imagine que si on remonte un petit peu, on pourrait rajouter les présidents des fédérations départementales, etc., qui parlent les liens d'amitié. Et puis ensuite, on va remonter de plus en plus haut, directeur de l'INSEP et tout. Je veux dire que c'est l'ensemble du maillage, en fait, qui il y a un moment donné, il y a un truc qui est fait, en fait, sur, il y a de la pression, etc., pour, on va dire que c'est pour réussir et pour fabriquer des champions. Oui. Mais alors, la casse et tout ce qui est toléré là-dedans, elle est énorme.
Ah ouais, complètement. Bah là, sous un poste, j'ai une personne qui me suit qui a commenté le haut niveau, c'est comme si on jetait une boîte d'œufs contre un mur et les champions sont les œufs qui ne sont pas cassés. Et en fait, bah, c'est totalement ça. C'est quelque chose qui est très difficile, qui est comme tu le dis, qui est comme tu le décris très bien, quelque chose d'institutionnel et de systémique et qui reproduit plein de schémas de violence, quoi.
Qui sont pas que des violences sexuelles, parce que on voit aussi qu'il y a beaucoup de violences morales, de harcèlement, de moquerie, de misogynie aussi, ce qu'on a aucun doute en plus d'ailleurs, parce qu'on le voit dans le monde, société globale. C'est ce qui me fait encore plus peur pour ma fille aussi. En fait, je me dis, il y a d'un côté, il y a l'autre, etc. Moi, j'ai subi les violences morales aussi au boulot, donc je vois vraiment le truc. Mais il y a les petites réflexions. Puis on en parlait parce que dans des sports, tu vois, je serais ce matin un podcast sur le vélo, on disait une cycliste, il y a un gars qui lui pousse, qui met la main dans le dos pour la pousser, enfin bas du dos, etc. Tu vois, ces petits gestes, etc. Mais En fait, vous vivez en vase clos en plus à l'INSEP. C'est-à-dire que les moindres réflexions, vous voyez pas grand monde. Vous êtes dans des groupes d'entraînement, un entraîneur, quelques athlètes, etc. Donc, ça va très vite finalement d'avoir ces gestes-là qui peuvent se répéter, plus la pression, ils parlent les uns aux autres et tout, ça devient vite l'enfer, quoi.
Ah ouais, ça devient vite compliqué. Il y a une forme de sexisme qui est très banalisée là-bas. Or, le sexisme mène à plein d'autres formes de violences qui peuvent être beaucoup plus graves. Et oui, comme tu le dis très bien, le fait qu'on soit en vase clos, même géographiquement, c'est quand même très intéressant. L'INSEP, c'est un énorme lieu d'entraînement et de vie, il faut le préciser, parce que il y a 80% des athlètes qui s'entraînent là-bas, qui vivent en plus là-bas. Il y en a qui font des études au sein même de l'INSEP. Donc vraiment, toute notre vie repose sur l'INSEP. Et géographiquement, c'est en plein milieu du bois de Vincennes, quoi. Donc autour, il n'y a rien. Et donc, ça nous met tout de suite dans une ambiance d'un milieu qui est très fermé, dans lequel c'est difficile de parler, dans lequel c'est difficile de penser autrement. Et c'est parfait pour pouvoir être victime de violences.
Et en plus, il y a un truc, parce que c'est le coup des massages, là. Sur que t'as dans le témoignage. En plus, c'est-à-dire qu'il y a même des choses dans le sport, on va dire, faut faire des massages pour avoir mal aux jambes, pour mieux récupérer, pour être plus performante, etc. Ouais. Qui sont en plus. Alors, tu vois, moi j'ai eu la tête, je me dis, t'as des gamines, 16, 17, 18 ans, 19 ans comme toi, et t'as un gars qui dit, je vais te faire un massage. J'imagine tout de suite comment ils peuvent en profiter. Et c'est ce qui est décrit, quoi. C'est-à-dire que même les gestes sont propices à ça, quoi.
Ah mais oui, totalement. Il y a beaucoup de coachs qui s'improvisent kinés ou plein d'autres choses, d'ailleurs nutritionnistes ou quoi. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que là, on a un cadre qui saute. Et donc, à partir du moment où ce cadre saute, la question est toujours la même. Où est la limite? À partir de quand je dis non? Il me dit qu'il fait ça pour mon bien et vu que c'est mon coach depuis toujours et que je le crois, je n'y vois pas d'inconvénient. Je suis petite, donc pour dire non, c'est encore plus difficile. Donc oui, il y a vraiment des cadres à mettre, il y a des limites à mettre. Et je pense que c'est important de le dire aux entraîneurs et de dire aussi aux athlètes qui sont en droit de refuser ou d'accepter.
Il y avait un témoignage qui était intéressant aussi, c'est qu'il y en avait deux qui se lâchaient jamais finalement, qui disaient on va le faire ensemble, il ne faut pas quitter la pièce.
Ouais. C'est Elisa. Non, c'est si c'est ça. C'est Cassandre et une autre athlète qui n'était pas dans le documentaire. Mais ouais, elle exprimait clairement que elle faisait en sorte de rester toutes les deux parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc elles essayaient de se protéger l'une l'autre. Mais c'est terrible d'en arriver à des stratégies comme ça alors qu'on a 15-16 ans, quoi.
Oui, parce que là, c'est vraiment, tu sens que t'es un prédateur. Et tu te dis, il faut que je me protège, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est aussi intéressant de voir l'ambivalence des choses parce qu'elles savent que ce qui se passe là, c'est pas normal, mais elles en sont pas du tout encore au stade de se dire qu'elles subissent des violences, que l'entraîneur est un prédateur et tout, pas du tout. Elles sont encore à un stade où elles ont beaucoup d'affection pour lui, où elles le considèrent beaucoup, mais pour autant, elles voient qu'il y a certaines choses qui vont pas.
Et c'est vrai, tu le disais, hein, il y a une figure de second père en plus, un petit peu, hein, cette image-là et tout. Il doit y avoir un côté protecteur, un côté. Il y a beaucoup d'émotions en plus chez les adolescents et il y a une construction de l'image du corps, du cerveau, des émotions et tout. Donc c'est en plus une période très fragile où il y a beaucoup de choses qui se construisent. Et alors j'ai envie de dire, malheureusement, c'est en plus pour en profiter, c'est encore plus fort pour avoir l'emprise parce qu'on parle là d'adultes. Des entraîneurs, je sais pas quel âge ils avaient, les entraîneurs que tu as côtoyés, mais c'est entraîneurs.
Ils avaient l'âge de nos pères, quoi, en fait.
Ouais.
Donc c'est encore plus facile pour eux de prendre cette position-là. Comme tu le dis aussi, on était à des âges où l'emprise, elle était grandement facilitée. Donc et puis c'est les entraîneurs, c'est beaucoup des hommes, donc c'est très facile. Et puis en France, on est sur un modèle qui est très qui est basé sur les clubs, sur l'associatif, et donc c'est quelque chose qui n'est pas professionnel. Donc, ça a plein de côtés extrêmement positifs parce que du coup, ça reste des milieux qui sont très ouverts. Donc, c'est très chouette. Mais d'un autre côté, le fait que ce ne soit pas professionnel, ça laisse beaucoup de place à l'émotion, beaucoup de place à l'affect. Et donc, l'emprise peut être d'autant plus facile à mettre en place.
Et puis, il y a l'aura aussi des entraîneurs, je pense. Parce que c'est un entraîneur qui a dit, bah, tiens, moi, j'ai eu telle carrière. Il peut avoir une admiration, je crois. Hein. On a le cas hein, qui est décrit. Mais tu pourrais dire, oh, bah, tiens, moi, j'ai conduit tel champion, telle championne au succès, etc. Tu as vu, ça a marché pour lui. Tu le dis, hein, c'est l'histoire des œufs, hein, finalement. C'est une fois que tu as amené un premier œuf au bout, tu vas te dire, si ça a marché, pourquoi je ne serais pas à la suivante? Et malheureusement, bon, ouais. Déjà, ce n'est pas garanti. Mais en plus, cette emprise, elle augmente en disant, bah oui, mais si tu veux réussir, fais ce que je te dis.
Ah oui, oui, totalement, totalement. Et on est beaucoup dans... En fait, on met notre carrière et notre avenir entre les mains d'un seul et même individu. Et donc, on est obligé de lui faire totalement, totalement confiance. Et donc ça nous met sur des comment dire, on n'est plus à égalité et ça déséquilibre beaucoup la relation et ça peut être oui, ça peut mener à des dérives.
Et en faisant mes recherches, j'ai découvert le terme de dolorisme.
Oui.
Qui, alors, est-ce que tu peux le définir? Tiens, comme ça serait intéressant de préciser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le connaît pas et qui explique aussi beaucoup de choses dans l'acceptation des choses.
Ouais, totalement. C'est hyper intéressant que tu en parles. Alors, le dolorisme, c'est tout simplement la valorisation de la douleur, notamment dans le sport. Et c'est vrai qu'on a beaucoup cette culture-là dans le sport de dire que plus on souffre, et mieux c'est. Plus on souffre, plus on a de chances d'être performant, performante, et plus ça veut dire qu'on est fort, qu'on est solide, et qu'on mérite d'arriver à un certain niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux, parce que du coup, ça empêche une réflexion sur cette douleur et sur la souffrance. D'accord, je souffre pour atteindre telle performance, mais pourquoi? Est-ce que là, la douleur, elle est forcément bénéfique, elle est forcément légitime? Et on n'est pas du tout là-dedans. Dans le sport actuel, on est douleur égale bénéfice, égale positif. Et le fait de ne pas questionner tout ça, je pense que ça peut être assez destructeur.
Ouais, le dolorisme, c'est très, j'allais dire, c'est très chrétien comme démarche, mais bon, on est dans un pays qui a cette culture-là aussi, il faut le dire. Moi, je crois pas en Dieu. Alors, franchement, tu ne me demandes pas de faire un cours de catéchisme, mais sauf que quand on a ça, on est vraiment, en fait, dans la culture chrétienne, de dire, faut souffrir, si on veut aller au paradis. Et ouais. En fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si tu veux aller au paradis, à ton paradis, à toi de sportive, les Jeux Olympiques, c'était de dire, bah, écoute, endure et tais-toi, quoi.
Ah oui, totalement. On est totalement là-dedans, dans limite l'auto-flagellation de ah là là, cette séance, j'ai pas suffisamment souffert. Ah là là, sur cette compétition, je me suis pas suffisamment mise dans le mal. Et on en veut toujours plus. Et ça crée un rapport à la douleur et un rapport à son corps qui est très particulier.
La plupart des... Enfin, je pense... Est-ce qu'elles font encore du sport, les jeunes filles que tu as eues dans ton documentaire? Parce que toi, tu as dit que tu as arrêté ta carrière, mais elles...
Y en a... Donc, sur les quatre, il y en a deux qui continuent l'athlé et il y en a deux autres qui ont arrêté.
C'est... Elles étaient toutes, en fait... Alors, elles étaient toutes à l'INSEP ou pas?
Non, pas du tout. Il y en a une, donc la première, Sarah, qui était à l'INSEP. Mais sinon, les autres, non, elles étaient en club.
Voilà. Donc, c'est pour montrer que, parce qu'il y a l'INSEP, il y a les clubs, on en a dit. Hein, toi, tu l'as connu en centre d'entraînement, il y a eu des clubs. J'ai eu des témoignages. Hein, quelqu'un m'a dit, mais dans un petit club, vraiment, des petits clubs, etc., où on a ce genre de comportement-là. Parce qu'on pourrait se dire, l'INSEP, bon, il y a la SETCHAP, on dit en plus, avec les Jeux Olympiques, on va fabriquer des champions, il faudra avoir des médailles. C'est l'usine où on va fabriquer, alors je dis bien usine en plus, tu vois, fabriquer des champions et tout, quoi. On pourrait se dire, c'est normal de mettre un peu de pression, mais en fait, là, on n'est plus dans de la pression, on est dans de la violence.
Ouais, complètement. Et c'est vrai que la distinction entre les deux, elle est très difficile à faire. Tu vois, si tu me dis, bah voilà, Emma, à ton avis, est-ce qu'on peut faire du sport de haut niveau de manière saine, pour reprendre l'exemple par rapport à l'INSEP, ben, je sais pas, parce que tout est tellement brouillé. Je pense que faire du sport, se mettre des objectifs, c'est très bien, tu vois, faire des courses, kiffer, se dire allez, je vais aller faire un marathon ou quoi, c'est très très bien, mais je pense qu'il faut toujours garder un esprit critique et une distance pour se dire ok, mais où sont mes limites, où est le cadre, et les respecter et les faire respecter par les autres, par son coach, par ses partenaires d'entraînement. Je pense que c'est très important.
C'est une question. Toi, moi, en tant que papa, je t'ai dit, ma fille, elle a 5 ans, donc pour l'instant, elle n'est pas en club, etc. Mais je pense que tous les parents, je pense qu'il doit y avoir des témoignages de parents qui s'inquiètent, qui se demandent. Parce que, est-ce que tu as témoigné, toi, auprès de ta famille? Est-ce que tu as pu leur en parler au départ?
Moi, j'en ai parlé, mais qu'en 2018, donc 4 ans après les faits, parce que je savais très bien que si je leur en parlais, ils allaient vouloir me protéger, ce qui est tout à fait normal, et donc me retirer de l'équipe de France, me retirer du haut niveau et tout. Et pour moi, c'était tellement toute ma vie que c'était pas quelque chose d'envisageable, quoi. Donc j'en ai parlé, mais que bien longtemps après.
Ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis cette prison finalement qui se construit, qui t'enferme là-dedans, parce que c'est vrai que cette crainte de dire, c'était quoi le pire pour toi à l'époque que tu pouvais voir si tu témoignais à ce moment-là, c'était de dire mon rêve s'envole, malgré les violences, ce que subis, malgré le sentiment de mal-être dans lequel t'es, c'est abject en fait.
Ouais, complètement. Mais je pense que si à l'époque, tu vois, j'avais pris conscience que ce que j'avais vécu n'était vraiment pas normal et que c'était des violences sexuelles, j'aurais vu les choses différemment. Mais vu que je ne savais pas les caractériser à l'époque, je me disais, bon, allez, c'est pas si grave que ça, donc je ne vais pas en parler à mes parents. Et puis, comme ça, je vais pouvoir continuer ce que j'ai envie de faire.
Pour autant, donc, on l'a dit, c'était championnat du monde hein, que tu as eu. Derrière, tu n'as pas arrêté tout de suite. Hein, tu m'as dit 4 ans plus tard. T'as témoigné, t'as commencé
Ouais, j'ai témoigné en 2018 et j'ai arrêté le haut niveau en 2020.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 ans qu'on suivit en fait?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après, je suis hyper performante. Donc en 2015, je fais une super saison. Franchement, j'ai rarement aussi bien couru. Et après, y a tout qui s'écroule. Parce que je mets pas le doigt tout de suite que c'est en lien avec ce que j'ai vécu en 2014. Je me dis bon, c'est une saison un peu compliquée, mais c'est normal, c'est l'athlé, c'est difficile. Et en fait, j'ai beaucoup beaucoup de mal à revenir. En 2018, je refais une très bonne saison, mais après, encore une fois, il y a tout qui s'écroule. Et je pense que ce que j'ai vécu, ça m'a beaucoup impacté. Et ça m'a beaucoup fait violence et ça m'a perturbée, quoi. Ça m'a complètement coupée dans ce que je faisais. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Si j'avais été dans un environnement d'entraînement absolument sain et solide, je pense que ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Mais en fait, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation de ce que j'ai vécu en 2014. C'est l'accumulation des mauvaises expériences que j'ai eues avec les différents coachs. Qui a fait que j'en pouvais plus et j'ai dû arrêter.
Pour ceux qui ne se rendent pas compte quand même, alors je ne sais pas si tu me diras si je me trompe ou pas, mais moi j'ai regardé ton temps sur 3000 cibles, c'est combien 9, combien 40, 9, 36
36. Ouais.
9, 36. Alors moi déjà le temps sans les barrières, ça me fait rêver, mais en plein... avec les barrières et la rivière, je me dis, oh là là, tout. Donc, c'est juste pour préciser, pour montrer quand même, pour rappeler le niveau. Parce que t'as commencé l'athlétisme à quel âge?
J'ai commencé, j'avais 11, 12 ans, quelque chose comme ça.
Je sais même pas, tu peux même pas compter les milliers d'entraînements que t'as passé pour arriver à ça, quoi.
C'est énorme, c'est l'entraînement, puis il y a tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Il y a toute la vie qui est faite de plein de choix très particuliers, beaucoup de sacrifices. C'était toute ma vie.
Parce que j'imagine que effectivement tu t'entraînais plusieurs fois par semaine, ça c'est sûr. Au début, ça commence doucement, mais après, en fait, c'est quoi? C'est à un moment donné, on détecte que tu as un bon niveau, que tu cours plus vite que les autres, que t'es. Comment ça se passe en fait?
Ouais, j'étais dans mon club à Fontainebleau parce que mes parents sont originaires de là-bas. Et vu qu'il s'est avéré que c'était aussi un pôle espoir, donc pour les personnes qui espéraient entrer en équipe de France, ça s'est fait assez naturellement. Je me suis entraînée, on m'a dit « Ah là là, Emma, vraiment, t'as du potentiel, va t'entraîner avec un tel ». Je me suis entraînée avec un tel, je suis entrée en sport-études, etc. J'ai fait mes premières sélections en équipe de France et puis voilà, mais oui, c'est beaucoup de travail.
Ouais, et j'imagine aussi que tu as toute une partie de les soirées, samedi soir, vendredi soir.
Moi, c'est bon, au lycée, encore jusqu'au lycée, ça allait à peu près. On pouvait, et encore, c'était quand même assez rare. Mais c'était non, on n'avait pas trop de soirées. C'était tous les soirs à l'entraînement, si ce n'est plusieurs fois par jour. Tous les week-ends, bah, c'était compète. Pendant les vacances, on partait en stage pour s'entraîner. Fallait bien dormir, fallait bien s'alimenter. Enfin, on n'a pas une jeunesse comme les autres. Ça, c'est clair et net.
C'est ce que j'allais dire parce que, en plus, alors je sais pas si toi t'as eu le cas, mais j'ai eu des témoignages sur le problème du poids, les entraîneurs qui faisaient des réflexions à leurs athlètes sur le poids. On a eu un témoignage de Marion Sicot qui disait que son entraîneur, alors elle était dans le vélo, qui demandait de prendre en sous-vêtements pour qu'il vérifie qu'elle ne prenait pas de poids ou quoi que ce soit. Les autres à qui on a posé des balances devant, à qui on a dit t'es trop grosse, etc., faut faire ci, etc. Donc, je veux dire que les pressions sont multiples et en plus la construction du corps, etc. Or, toi, peut-être, je sais pas si tu les as eues ou pas, mais en tout cas, ça se rajoute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça, il y a ce truc-là, il y a ça, il y a ça, tout s'ajoute, quoi.
Ouais. Bah pour la question du poids, pendant longtemps j'ai pas eu de soucis parce que j'ai un métabolisme qui élimine très bien et donc ça allait. Et après le poids, on m'en a parlé plus à la fin de Fontainebleau et au début de l'INSEP parce que bah je devenais une femme donc je me développais donc j'avais tendance à prendre du poids un peu plus facilement. Donc j'ai pas eu trop de soucis au début de ma carrière. Après on m'a un peu beaucoup embêtée avec ça. Et en fait c'est vrai que je trouve que c'est un peu comme le mental, c'est-à-dire que quand il y a une contre-performance qui s'explique pas forcément ou un moment de moins bien, j'ai l'impression que les coachs utilisent soit tu vois l'excuse du poids, soit l'excuse du mental pour dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc soit mentalement tu te renforces, soit tu perds du poids parce que ça ne peut être que ça l'explication. Et le souci c'est que quand on nous parle du poids surtout en tant que femme, et ben ça peut très vite mener à des troubles du comportement alimentaire, ce que j'ai eu donc sur la fin de ma carrière. Et en fait, c'est complètement, on se rend compte que c'est très contre-productif.
Alors, on a fait des épisodes sur et dans Sport Nutrition aussi sur l'aménorrhée, sur l'épuisement, sur les pertes de règles, etc. Et justement, c'est là où on a eu des témoignages de certaines athlètes ou de nutritionnistes, de diététiciens qui se rendent compte qu'ils ont des athlètes qui ont une pression énorme. Alors ça touche les femmes, ça touche aussi les hommes hein, parce que j'ai des témoignages masculins aussi sur cet aspect. Mais c'est vrai que le poids est vraiment vu comme une arme et on l'a vu à l'étranger. Alors j'ai perdu le nom de cette coureuse. Qui était américaine d'ailleurs, je crois, dans un centre d'entraînement américain, qui était épuisée, qui a dit stop aussi. Vraiment, on le voit que c'est vraiment une pression qui est très forte, qui s'ajoute dessus, mais qui vous conduit vraiment à l'épuisement global, quoi.
Ah mais oui, totalement. Il y a une, je pense qu'il y a une méconnaissance quant au poids et quant au poids de performance. Je pense que en fait, il y a ce truc, tout à l'heure, on parlait du dolorisme, c'est-à-dire que toujours plus de douleur, c'est bien. Et bah, le poids, c'est toujours moins de poids, c'est bien aussi. Et il y a, je pense que même moi, tu vois, on me demandait mon poids de forme. Bah, en fait, je ne savais pas trop parce que... Parce qu'un jour c'était tel poids, et puis j'avais un autre poids pour faire telle perf. Enfin, c'est des choses qui sont encore très floues et qui malheureusement mènent à des comportements bah, qui peuvent être déviants. Et je trouve que c'est très dommage qu'il y ait encore autant de méconnaissance par rapport à tout ça.
Est-ce qu'avec les témoignages que tu as eus, tu as vu, alors c'est terrible à dire, mais une sorte d'échelle, tu sais, où ça commence par un petit truc, et puis ça monte petit à petit, et finalement on retrouve une espèce de fonctionnement à peu près répétitif, en fait, selon les cas.
Par rapport aux violences sexuelles?
Oui, par rapport aux pressions, aux violences sexuelles, et comment on arrive à ça? Parce que ça, forcément, au départ, ça part de pas de, ça part d'un petit geste, ou d'une petite phrase, ou de quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, bah je pense que c'est facilité par le sexisme, mais je veux dire le sexisme même pas dans le sport, hein, le sexisme dans notre société de manière globale. Il y en a particulièrement dans le sport parce que dans le sport il y a cette culture de il faut être fort, il faut battre les autres, donc il y a une forme, tu vois, de on met en avant la masculinité, la virilité, et ça passe malheureusement par mettre la pression aux femmes. Et donc ça, ouais, ça commence, on baigne là-dedans tout le temps, donc ça commence même en dehors des sphères du sport. Et puis après, c'est une relation avec un entraîneur où ça commence à être un peu sur l'émotion. Après, on va commencer à se mettre de plus en plus de pression pour atteindre ses objectifs. On va jamais, on croit que ce qu'on fait, c'est jamais suffisant. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui font que petit à petit, il y a une escalade des violences. Et après, pour les cas les plus graves, ça peut se terminer par des violences caractérisées, donc des violences sexuelles, des choses comme ça.
Et en plus, chez les femmes, il y a un truc qui est vrai. Tu as parlé chez les hommes, c'est la masculinité. En plus, on a le moment masculiniste là, qui est en train de ressortir parce qu'ils se sentent un peu violentés, les pauvres gars. soyons honnêtes. Mais vous, en plus, la tenue, les petits shorts, les petits trucs, etc., ça rajoute en plus un côté, j'allais dire, viande qui court et qu'on observe sous toutes les coutures, qui est vraiment terrible, quoi.
Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'étais la première à adorer courir en brassière et en culotte parce que je trouvais ça très agréable. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a ce truc de l'autre côté, on se dit, mais pourquoi on nous dénude autant. Les gars, je ne les vois pas courir ni en brassière, ni en mini-slip qui leur rentre dans les fesses à la fin de la course. Enfin, tu vois, ils sont quand même... Ils ont un débardeur, un short qui arrive mi-cuisse et puis ça va bien tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est aussi... on fait partie de... On est objectifié, j'ai envie de dire, en tant que femme sportive.
Et c'est d'ailleurs énorme parce que quand tu fais des recherches sur Google, et vous pouvez tous faire le truc, vous faites des recherches sur les athlètes et on tombe toujours sur des articles, les 10 plus jolies athlètes, les plus jolies filles. Il y en a une, et c'est une perchiste américaine, que tu dois voir de qui je parle, qui s'appelle Alison Stock, qui est qualifiée comme étant la plus jolie perchiste du monde, etc. Mais en fait, quand on regarde sa photo la plus célèbre, elle est dans ses fameuses tenues, mini shorts, etc. Et derrière, elle a été vue que pour ça. On a oublié qu'elle sautait très haut, qu'elle avait des performances incroyables. Mais surtout, c'est que derrière, elle n'a plus rien fait, en fait. C'est-à-dire qu'elle a été jetée en pâture.
Ah oui, totalement, totalement. Et je pense qu'elle l'a exprimé, d'ailleurs, que ça avait été psychologiquement très dur pour elle. Et c'est vrai que beaucoup de femmes sportives sont très vite réduites à leur physique. Il y a des sportives... il y avait une tenniswoman, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Korikova ou Konikova, quelque chose comme ça, qui était très forte, mais pas aussi forte que d'autres tenniswomen. Mais vu qu'elle était hyper belle, qu'elle avait une plastique de rêve, qu'elle est sortie avec Enrique Iglesias, etc., elle a eu des contrats de malade. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les femmes, des femmes qui sont mises en avant par rapport à leur esthétique plutôt qu'à leur performance sportive. Alors que chez les hommes, quand on entend des compétitions d'hommes qui sont commentées, on a beaucoup moins de références à leur physique que quand on commente des performances sportives féminines.
Oui, alors c'est vrai que la tennis woman, c'est Anna Kournikova qui était...
Voilà, Kournikova, c'est ça.
Voilà. Mais c'est vrai que... Alors, c'est moi, tu vois, c'est ma génération parce qu'elle est née en 80. Moi, je suis née en 76, donc je suis un vieux schnock par rapport à toi. Mais en fait, elle était, tu vois, à 50 moins que moi. Donc, je vois très bien, en fait, à comment elle était. Et en fait, c'est pas la seule parce que dans le tennis, il y a eu quand même beaucoup ce phénomène-là. Même les dernières gagnantes de l'US Open, etc., je sais qu'elles ont eu des soucis. Ou alors, il y en a qui gagnent aussi. Et ça, c'est un truc qui est incroyable. C'est comme elles gagnent plus d'argent aussi. Finalement, en partant sur le côté mannequinat, en se mettant en valeur physiquement, etc., que sur le côté sportif, ce qui dénature finalement l'image aussi qu'on a, parce que c'est d'abord l'entraînement, quoi. C'est d'abord les milliers d'heures d'entraînement dont on a parlé avant de pouvoir dire derrière être mannequin ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment tout un système global autour des femmes. Mais moi, quand je dis que vous êtes jeté en pâture, mais c'est clair. Et puis, et les commentaires, on les entend. Même à la télé, on entend des commentaires et tout sur ça, quoi.
Ouais, complètement. Je me rappelle que c'était au championnat d'Europe à Berlin. Donc je fais mes séries et juste après mes séries, donc je suis interviewée, c'était à France Télévisions, et j'entends un des commentateurs qui est sur le plateau qui dit au journaliste qui était à côté de moi: « Ah, vous êtes en bonne compagnie. » Mais en fait, on n'est pas là pour ça. Je viens de me qualifier. C'est mes premiers championnats d'Europe senior. Je viens de me qualifier pour ma finale, de battre mon record, etc. Et la première remarque que je me prends, c'est « Ah oui, ah là là, la chance, vous êtes en bonne compagnie. » Enfin, c'est en permanence ça. Et c'est vrai que même nous, en tant que sportives, on recrée ces schémas-là parce que moi, je me rappelle que ce jour-là, je m'étais mise au max, j'avais fait une coiffure, je m'étais maquillée, etc. Et tu vois, il y a ce truc qui est très... c'est très ambivalent, tu vois. On se dit, moi, j'aurais pas pensé faire une compétition sans maquillage. Et je suis absolument sûre qu'il y a 99% des sportives, c'est la même chose. On reproduit aussi ce schéma-là.
Tu me dis que tu n'aurais jamais fait une compétition sans maquillage. T'imaginais plus. C'est dingue, en fait. Enfin, tu penses.
Ouais. Il y avait des compétitions que je faisais sans maquillage, mais c'est vrai que pour moi, me maquiller, avoir ce moment-là, ça me permettait de mettre dans ma bulle. C'était vraiment un rituel, en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même dérangeant de se dire, bon, des compétitions qui comptaient pas trop ou quoi, où c'était plus pour de la préparation, je me maquillais pas forcément. Mais par contre, quand j'étais sûre d'être prise en photo ou d'être filmée ou qu'il y aurait du monde, etc., et bah, pour moi, je me maquillais parce que bah, toutes les filles autour de moi étaient maquillées aussi, et parce qu'on est sociabilisées en tant que femme à devoir prendre soin de notre apparence parce qu'on sera valorisées de cette manière-là. Et c'est quand même assez terrible.
J'avais vu un documentaire sur le tennis avec les réseaux sociaux, la pression des réseaux sociaux, alors qu'il portait beaucoup sur les résultats des joueurs et des joueuses, mais notamment des, on disait, tiens, j'ai parié tant d'argent sur un jeune joueur en espérant qu'il gagne ou qu'il perde, d'ailleurs, ce qui était totalement hallucinant. Bon, en athlétisme, je sais pas si t'as le cas, etc. aussi, mais en fait, c'est aussi pour pointer que t'as tout le monde qui regarde avec les réseaux sociaux et tout, c'est amplifié. C'est-à-dire que toutes les athlètes ont un compte Instagram maintenant. Alors, compte Instagram, c'est forcément l'image. Bon, toi, tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu t'exprimes, mais il y en a d'autres qui ont des chaînes YouTube et tout. Donc, on est en plus vraiment dans ce truc de l'image. Donc, ça l'amplifie encore, ça.
Ouais, ça amplifie ce côté où il faut être bien, il faut être affûté, il faut être bien habillé, il faut être présentable, etc. Donc ça c'est clair qu'il y a beaucoup ce côté-là. Et puis il y a aussi, en fait, Instagram, pour nous en tant que sportifs ou sportives, c'est notre business. C'est-à-dire qu'on a des sponsors qui vont nous rémunérer, qui vont nous permettre d'avoir tous nos équipements gratuits et qui, avec lesquels on signe donc des contrats. Et dans les contrats, il est quasiment tout le temps stipulé que voilà, on doit se prendre en photo, mettre en avant la marque. Donc voilà, c'est du donnant-donnant. Et donc oui, notre image, elle est encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux mise en avant, et c'est notre business.
Oui, donc ce qui rajoute, en fait, tu peux même pas te cacher, ou alors, enfin, ceux qui peuvent se cacher, c'est ceux qui ont déjà gagné beaucoup d'argent et qui sont. Ce qu'il y avait dans le tennis d'ailleurs, parce que je sais plus quel joueur de tennis le disait, lui, il a pas de téléphone, etc. Il a rien du tout, il est à l'abri. Mais c'est un gars qui a 10 ans de carrière et donc a déjà dû quelques millions de côté, parce qu'en plus ça va vite. Quand t'es une jeune athlète, parce que ça coûte cher une carrière d'athlète en fait. À financer.
Ah bah bien sûr, rien que pour aller faire des voyages à droite à gauche, quand on arrive à un certain niveau, à la fin de ma carrière, je faisais toutes les compétitions que je faisais, c'était à l'étranger, parce que c'était les seules courses qui avaient le niveau nécessaire pour que je puisse me qualifier au grand championnat. Et donc ça a un coût. Les équipements, ça a un coût, surtout maintenant qu'on voit les chaussures à carbone qui coûtent 250-300 euros. Quand il y a toutes les autres athlètes qui ont ces mêmes chaussures, bah on se dit, bah on est obligé en fait. Et donc oui, ça a un coût, il faut bien qu'on vive aussi à côté, et donc bah, il n'y a pas 36 solutions pour trouver de l'argent. Tu le disais tout à l'heure, la course à pied, c'est pas un sport dans lequel il y a le plus d'argent. On serait dans le foot ou quoi, on se poserait beaucoup moins de questions, mais là c'est moins le cas.
Ouais, déjà tu serais dans le foot, tu serais en centre de formation, ça serait payé par le club, c'est vrai, et ouais. c'est important, hein, ce schéma, parce que c'est vrai qu'en France, tu disais, hein, structure amateur, beaucoup de clubs amateurs, etc., et t'as pas le cadre global. On en parlait aussi sur l'alimentation, on disait, il y a des athlètes quand même qui, pour arriver à même payer de quoi manger correctement, c'est compliqué, donc ils peuvent pas dire non plus à ces photos, peuvent pas dire non à cette visibilité, peuvent pas dire non à cette exposition. Tu peux pas te cacher, quoi.
Ouais, complètement. Ouais, non, on est tributaire de de plein de choses en tant qu'athlète. J'avais la chance à l'INSEP, c'était quasiment totalement payé par, par la Fédé d'athlètes. Donc ça, c'était très bien et je crache pas dessus. Mais non, on n'est pas dans des positions qui nous permettent de refuser tel contrat, de refuser de se montrer. Non, non, on est quand même assez vulnérable de ce côté-là.
Et tu vois, c'est là où je trouve que c'est encore pire cette histoire. C'est que finalement, à l'extérieur, t'as le monde, j'ai envie de dire sauvage, tu vois, avec toute la visibilité, etc. Et tu te dis, il me faut une bulle quand même dans laquelle je vais pouvoir être tranquille, à l'abri. Hein, on a tous envie de notre caverne. Moi, j'appelle ça la caverne chez moi. La caverne d'Hamster, c'est notre communauté. On est à l'abri, tu vois. Moi, il y a quelqu'un, je lui fous un coup de pied au cul s'il vient gueuler ou quoi que ce soit. Mais là, en fait, tu te dis que l'endroit où tu devrais être à l'abri, le club, l'INSEP, en fait, t'y es pas.
Oui. c'est vrai. Et encore, quand j'étais en club, ce qui était super, c'est que j'habitais chez mes parents quand j'étais encore à Fontainebleau. Donc, j'avais ma caverne, j'avais mon endroit où me ressourcer et je savais que c'était safe. Mais c'est vrai qu'à l'INSEP, avoir ça, c'est beaucoup plus difficile. Et d'autant plus que notre place là-bas dépend des résultats qu'on va avoir. Donc moi, je vivais à l'INSEP, je mangeais à l'INSEP, je faisais tout à l'INSEP. Enfin, c'est tout pour moi. Et donc, le truc, c'est que si je savais qu'il y avait une saison où j'étais un peu moins performante pour plein de raisons différentes, et potentiellement, c'était une place qui était éjectable, quoi. Et donc, ça peut mettre une certaine pression, c'est sûr.
Et donc, ça peut rajouter encore un argument pour les entraîneurs. Je veux dire, c'est un cercle infernal, ce truc-là. Parce que dès que tu baisses un peu, on dit, bah, tiens, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Et si tu faisais ça, et si tu faisais ci, plus de massage. Enfin, c'est l'enfer, quoi.
Ah oui, ça peut très vite devenir très très problématique. Et encore là, tu vois, je suis en train d'en parler, il y a de plus en plus de sportifs qui en parlent, mais je suis sûre et certaine qu'il y a des histoires qui sont bien plus graves dont on n'entend pas encore parler, qu'on entendra parler, j'espère, dont on entendra parler, j'espère, dans quelques mois, dans quelques années. Mais oui, c'est très facile de que ce soit très problématique tout ça, ouais.
Parce que c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu on voit un peu psychologiquement des athlètes, on en a parlé dans le tennis avec Osaka, on l'a vu avec Simone Biles aux Jeux Olympiques, etc., qui sont pas capables, enfin, ça ressemble à des burn-out en fait, mais dont on a, enfin vraiment, c'est ce truc-là, quoi. Et des fois, de l'extérieur, c'est un peu mal compris, parce qu'on se dit, finalement, vous avez un super boulot, enfin, alors, vous moins que les footeux quand même, faut le dire. Moins d'argent, plus d'entraînement. C'est comme les cyclistes aussi, j'ai fait la blague aux cyclistes, hein, je dis c'est pareil, hein, je dis un cycliste, il va rouler 10 heures pendant que le footeux va faire 1h30 d'entraînement, ils ont pas les mêmes trucs.
Ouais.
Mais de l'extérieur, tu sais, puis moi c'est mon rêve d'enfant d'être sportif de haut niveau et tout, je me dis tiens, j'aurais adoré ça et tout. Et j'ai envie de te dire, des fois il y en a même qui doivent se dire t'as même pas le droit de te plaindre en fait. C'est-à-dire que t'as une vie de rêve, quoi.
Ouais. Bah, j'ai ça comme commentaire sous certains de mes posts. J'ai « Ouais, mais c'est bon, être sportif de haut niveau, c'est trop bien, etc. » Mais c'est toujours pareil, en fait. Quand on ne vit pas les choses de l'intérieur, c'est quand même extrêmement différent. Quand on voit les Jeux Olympiques à la télé, les médailles, les paillettes, la gloire, les marques qui nous sponsorisent, on se dit mais c'est absolument génial. Mais en fait, quand on voit ce que c'est vraiment de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Et franchement, je mets ces personnes-là qui disent ce genre de choses, je les mets au défi de vivre ne serait-ce qu'un mois en tant que sportif de haut niveau. Non, c'est pas facile du tout. Et si on a de plus en plus de personnes qui parlent, c'est bien qu'il y a un problème.
Et c'est vrai quand même que vous avez les athlètes de haut niveau comme ça, vous avez une disposition. Parce qu'on dit t'as pas de mental ou je sais pas quoi, si un entraîneur te dit ça, alors que pourtant vous avez une force mental pour arriver à, on parlait tout à l'heure du Doloris, mais passer des heures d'entraînement, se mettre dans du mal, enfin, quand on dit vraiment dans du mal, c'est-à-dire aller s'entraîner dans des zones où normalement t'as personne qui a envie de s'y mettre, pendant des heures où personne n'a envie de s'y mettre, c'est vraiment un truc de dingue où je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, qui voient pas la force mentale. J'en parlais aussi dans le foot, je reviens sur le foot, on disait, mais pourquoi un joueur qui est talentueux ne réussit pas alors que l'autre qui est moins talentueux réussit? Et souvent on se dit, c'est justement cette acceptation du sacrifice et tout, quoi, qui est dingue. Donc, de là de dire que t'as pas de mental, ça peut arrêter totalement dingue. Et les gens qui sont à l'extérieur, je crois qu'ils se rendent pas compte, en fait, de cet environnement, de cette pression, de la pression que vous mettez, vous, d'abord, pour arriver à faire ça.
Ouais, totalement. C'est, oui, non, c'est des choix de vie qui sont extrêmement particuliers. Et comme dirait Aurel San, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Sauf que quand tu vois le pourcentage que ça représente les sportifs de haut niveau, au niveau de la population, c'est quand même très, très faible parce que oui, c'est une vie qui est très particulière. Alors oui, ça reste une vie qui peut être basée sur de la passion. Ça reste une vie qui est choisie. C'est pas le travail à l'usine, c'est pas, oui, bien sûr, on est d'accord, mais comme je pense toutes les situations et comme tous les milieux, il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui sont très problématiques et c'est extrêmement important d'en parler.
Ça reste une passion quand même, quand tu arrives les heures d'entraînement, là que tu arrives au championnat du monde et tout, que tu as toute cette pression-là, ça reste encore une passion où il y a des moments où tu te dis...
Oui, je pense que j'ai été passionnée tout le long de ma carrière. Vraiment, j'adorais ce que je faisais. Il y a eu des moments qui étaient très difficiles, où j'ai beaucoup douté, où j'ai eu envie d'arrêter plein de fois, hein. Mais ça reste, oui, ça reste une passion. Et même encore aujourd'hui, donc là, j'ai un petit problème au genou qui fait que je peux pas courir comme je voudrais. Mais j'ai hâte de pouvoir continuer, enfin reprendre la course de manière amateur totalement, de pouvoir kiffer sur les entraînements, de pouvoir refaire des compètes à droite à gauche. Ça, j'ai hyper hâte. J'adore. C'est un sport qui est magnifique, mais quand il est fait dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes et avec les bonnes limites.
L'impact, on a parlé, ce qui, dans le documentaire, on voit bien l'impact. On voit même d'ailleurs que donc il y a l'histoire de plainte, de se rendre compte des plaintes, etc. Que suivant les cas, c'est pas pris tout à fait de la même manière, que c'est pas si facile que ça. Ce qui est marquant aussi, c'est finalement de se dire, mais j'ai pas envie de le voir en prison. Enfin, il y a cette relation qui reste, je sais même pas comment la définir. Je sais pas comment toi tu définirais la relation qui reste entre ces entraîneurs, dirigeants et autres avec ces athlètes qui ont été victimes de ça, en fait.
Ouais, c'est très difficile. Je sais pas, tu vois, si c'est parce qu'il y a encore une forme d'emprise ou si c'est parce que l'athlète en question ne voudrait pas que qui que ce soit aille en prison. C'est vrai que c'est très particulier. Je sais pas. Je sais pas. Le plus important, je pense, c'est que ces athlètes-là restent éloignés de ces personnes parce que je pense que quand il y a eu, tu vois, une relation de violence comme ça, c'est très difficile. Donc, et puis je pense que c'est important aussi de faire un travail sur soi pour pas que ce genre de type de relation se noue avec, avec d'autres personnes et que ce soit quelque chose de répétitif.
Alors, quand j'ai regardé les vidéos, il y a un autre truc qui ressort, c'est que bon, t'as eu des plaintes, il y a eu les différents athlètes portent plainte contre, alors pénalement, juridiquement et tout, mais aussi auprès des fédérations, de l'INSEP et tout, et que derrière les résultats, ça suit pas vraiment, quoi.
C'est long, franchement, c'est long et puis c'est pas toujours très, très satisfaisant. Ça, c'est clair. On est encore dans un système où la parole des femmes n'est pas toujours très bien prise en compte. Où c'est, en plus, ce qui est hyper pervers là-dedans, c'est que pour obtenir des plaintes, pour obtenir des preuves quand il y a des agressions sexuelles ou des violences sexuelles, c'est très difficile. Donc, pour qu'il y ait ensuite des condamnations, c'est très compliqué aussi. Et donc c'est vrai que ça, je comprends que ça puisse décourager certaines personnes d'aller porter plainte, des choses comme ça, c'est pas évident.
Puis même, on voit des cas où finalement, il y a une sanction, une mise à l'écart de l'entraîneur pendant un certain temps, et puis lui-même se retourne contre son club, et puis il revient. Tu te dis, attends, il se passe quoi là?
Carrément, bah c'est la difficulté entre des décisions de justice et des décisions de club ou de structure sportive. Là, on a eu le cas d'un coach qui maltraitait ses athlètes, qui a été viré par une structure sportive. Mais vu que la décision de justice était différente, et bah, du coup, il a pu réintégrer la structure en question. Et donc ça pose des gros soucis. Ouais. Et ce qui est le plus difficile là-dedans accepter, c'est que du coup, bah, on se retrouve avec de jeunes sportifs ou sportives qui sont au contact de personnes qui peuvent potentiellement être dangereuses.
Mais ce que j'allais te dire, c'est que moi, enfin, j'imagine que tu as une colère en toi quand tu vois ça, c'est pas possible Enfin, je comprends pourquoi tu ouvres ta gueule, tu vois, mais c'est pas possible de se dire il faut faire quelque chose, quoi.
Ah oui, bah ouais, non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas possible de rester sans rien faire. J'ai pas du tout envie qu'il y ait d'autres sportifs qui vivent ce que j'ai vécu. Mais en fait, on fait avec nos armes et tu vois, on est obligé de se mettre dans un mode de bon, je fais le maximum que moi, de ce que je peux faire. Et puis après, le reste, bah, je laisse tomber parce que si on est trop dépendante des décisions qui vont être prises, bah, on fait plus rien. Donc on est obligé de se blinder un peu et de se contenter de ce que nous, on est capable de mettre en place.
J'imagine que tu reçois beaucoup de témoignages, ça libère la parole, etc. J'imagine que tu as quand même beaucoup de gens qui t'envoient des messages pour te dire bah, ça me rappelle ce que j'ai vécu.
Ouais, et c'est pas une position qui est évidente parce que c'est pas mon métier. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas voilà. Mais en même temps, c'est hyper gratifiant parce que de un, je me rends compte que ce que je fais, ça sert. Et de deux, bah il y a des personnes en face qui me font suffisamment confiance pour me raconter des choses qui sont hyper intimes. J'ai déjà eu le cas de jeunes femmes qui sont venues me dire, bah voilà, Emma, t'es la première personne à qui j'en parle. Donc c'est extraordinaire, mais en même temps ça montre la faiblesse du système parce qu'on voit que les gens ne savent tellement pas qui à qui s'adresser que du coup ils viennent s'adresser à une inconnue sur les réseaux sociaux et donc moi je suis quelque part heureuse de pouvoir pallier tout ce manque-là, mais ce serait bien que ce soit les institutions, les fédérations, le ministère qui mettent des outils en place pour que ces personnes-là puissent être entendues.
Et puis, j'ai peut-être un peu le sentiment qu'il y a des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont un peu intouchables. Alors, après, c'est un peu le sentiment de dire, tu vois, on parlait d'un entraîneur qui a une aura parce qu'il a eu peut-être formé d'autres sportifs ou il a une belle carrière. Mais ça peut être un sportif à l'INSEP. Parce que quand tu as des violences entre sportifs, finalement, tu te dis, lui, il a une chance de médaille, lui, c'est un espoir ou quoi que ce soit. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Il est accusé de violence sexuelle. Tu en as parlé dans des vidéos il n'y a pas longtemps. Tu dis il est accusé de violence sexuelle. C'est un espoir de médaille pour ça, de carrière, etc. J'imagine qu'il y en a certains qui calculent d'abord le truc en se disant nous, il nous faut des médailles pour la fédération. Et je dis d'une manière très crue, mais parce que je vois très calculateur, plutôt que de protéger la petite jeune fille qui, si en plus, elle n'a pas le même. Alors, je dis pas même capacité à avoir des médailles, mais peut-être en plus d'ailleurs qu'elle se calcule. En disant, bah tiens, c'est lequel des deux qu'on va privilégier, quoi.
Ouais, totalement. Bah là, je pense à un athlète. Bon, je vais citer son nom. Ça se trouve, je vais me prendre des foudres, mais tant pis. Je pense à un athlète comme Wilfried Apio, par exemple, qui est un gros espoir de l'athlétisme français. Il a fait une médaille au championnat d'Europe cet été. C'est l'un des seuls espoirs de médaille à Paris 2024, parce qu'il y a il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que malheureusement, l'athlétisme français ne se porte pas suffisamment bien pour avoir beaucoup d'espoir sur des médailles à nos JO là qui arrivent. Et je pense que ce genre d'individu profite quelque part de sa position et du fait que ce soit un excellent athlète pour être intouchable et pour être protégé. Et il y a en plus, tu vois, beaucoup ce discours de oui, mais il y a la présomption d'innocence et tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais si on retourne la réflexion, on se dit, il y en a qui disent oui, mais imagine c'est faux, sa vie elle va être détruite, etc. Oui, mais imagine c'est vrai et la vie de la jeune fille qui l'a potentiellement agressée, elle est détruite aussi et sa carrière, elle est détruite aussi. Et je pense qu'il faut renverser les choses et qu'il y ait beaucoup plus de choses qui soient mises en place pour protéger les potentielles victimes.
C'est ce que j'allais te dire parce qu'en fait, il y a la double peine chez les victimes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit. Et puis, parce que toi, quand j'ai fait des recherches, etc., quand on regarde un petit peu ta carrière, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques, cet espoir de faire les Jeux Olympiques. Je tombais tout à l'heure sur un article où tu étais cité dans le même article, comment il s'appelle, Gressier, comme espoir et tout. Quand on voit sa carrière à lui et on dit, hein? Enfin, franchement, quand on voit le truc, et tu dis. Là, t'es victime, t'as vraiment la double peine parce que sur le plan personnel, t'as toute la reconstruction personnelle à faire, etc. Mais sur le plan sportif, c'est pour ça que je te disais, les jeunes filles qui témoignent, il y en a que deux sur les quatre qui continuent. Et encore, je sais pas, niveau de performance, parce que quand t'as la tête qui est ailleurs, qui a l'esprit et tout ailleurs, c'est super compliqué à faire. Donc, il y a vraiment la double peine sportive, humaine, l'image de soi, etc. C'est vraiment terrible le bilan de tout ça, quoi.
Ouais, c'est très dur. Et ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, les victimes, elles doivent continuer à cohabiter avec leurs agresseurs parce que les athlètes en question ne bougent pas, parce que les entraîneurs en question ne bougent pas. Donc c'est à la victime de devoir s'adapter. Et quand on voit déjà la difficulté que c'est de faire du sport de haut niveau, si en plus de ça, on ajoute la difficulté de devoir rencontrer de manière quasi quotidienne son agresseur, enfin, c'est extrêmement compliqué et franchement ça fout les boules en fait, ça fout les boules de voir le nombre de carrières que ça fiche en l'air. Je pense par exemple à une Claire Palou aussi qui a témoigné il y a peu, avec qui je me suis entraînée à l'INSEP. Donc elle, pareil, elle a fait une grosse dépression, elle a mis un terme pour le moment à sa carrière. Et en fait, elle a vécu des violences sexuelles. Et c'était un espoir immense de l'athlétisme français. Donc quand on voit les vies et les carrières que tout ça, ça fiche en l'air, c'est extrêmement frustrant. Et même plus que ça, c'est vraiment révoltant.
C'est vrai, j'avais vu le témoignage de Claire Palou hein, sur finalement ce. Elle est dans la même discipline que toi, hein, c'est une spécialiste du 3000 aussi, hein, ce type. Hein.
Ouais, tout à fait.
Sur le témoignage qui est là et tout, c'est vrai que elle a quoi, 22 ans, 23 ans dans ces âges-là
ouais,
et tout,
hein,
cette partie d'espoir, ouais. Et donc, que là-dedans, on est. Et tu vois, Marion Sicot m'avait dit la même chose un petit peu, c'est l'échappatoire, en fait. Elle avait dit, et sinon, elle expliquait qu'elle, c'était dopé, à l'EPO. Et en plus, c'est le truc le plus détectable. La veille d'une course, putain, tu te fous un truc, donc t'es sûr d'être détecté. Mais en fait, elle est sortie de ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'elle avait exprimé en disant, bah, au moins, je me sors de ça. Donc, elle a pris 2 ans de dopage, 2 ans de suspension, c'était prolongé, etc. Mais c'était, en fait, c'est même pas un cri, quoi. C'est de dire, c'est la seule échappatoire que je trouve. Pour que ça s'arrête, c'est finalement de m'éjecter moi-même du système.
Ouais. Ah purée, c'est fou qu'elle ait exprimé ça comme ça. Bah ouais, c'est. Ouais. Moi, ça a été en fait. Il y a eu donc tout à la fin, vraiment juste avant que je parte de l'INSEP, il y a eu des gros désaccords avec mon entraîneur qui m'a plus ou moins demandé de partir du groupe d'entraînement et tout. Ça a été très compliqué. Et après, ben, je fais une dépression, une grosse dépression. Et en fait, c'est cette dépression qui me permet, même si ça a été extrêmement difficile, c'est ça qui me permet de me dire, bon, Emma, là, en fait, stop. Le haut niveau, ça t'a fait suffisamment de mal comme ça. Donc maintenant, on arrête. Et oui, ça a été un échappatoire quelque part.
Mais en fait, c'est vrai, quand on regarde le lien entre le corps, le cerveau et tout, il y a un moment donné, quand il y a une souffrance intérieure, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui. Je suis sûr que les blessures aussi sont générées par ces comportements-là. En fait, ça fait partie aussi de l'échappatoire, de la blessure, te dire, bah, tiens, je vais retourner à ma famille quelque temps. Sortir de ça et tout. Bon, après, même si ça est retourné, ça doit être quand même sacrément compliqué hein, dans l'histoire. Mais je suis sûr qu'aussi, les blessures peuvent être déclenchées par ça, en fait. Hein.
Ah oui, bien sûr, par le mal-être, par plein de choses. Il y a des choses qui sont très psychosomatiques. Les choses, elles sont liées. En plus, en tant que sportif de haut niveau, on a un corps qui nous parle beaucoup, qu'on écoute très peu d'ailleurs. Mais des fois, en fait, ce corps-là veut se faire entendre plus que tout. Et oui, il y a plein de blessures, comme tu le dis, qui sont créées par un état psychique qui ne va plus et qui nous permettent quelque part de prendre un chemin qu'on n'aurait jamais pris autrement.
J'ai envie de, pour terminer, en fait, comment elles s'en sortent? Parce que il y en a une qui parle de MDR, il y en a qui parlent de leur famille, de la reconstruction, d'un petit ami ou de différentes personnes. Comment elles s'en sortent en général de ces situations-là?
Bah c'est par plusieurs choses. Ça peut être, donc déjà, je pense, le fait d'en parler, c'est la première étape, en parler à des personnes de confiance, à sa famille, à des amis, à des personnes qui nous croient. Ça peut être par un suivi thérapeutique et psychologique. Donc le fait de parler à une professionnelle qui est formée à ça, le fait d'utiliser des outils thérapeutiques comme le MDR, il y a de l'ICV, il y a de l'hypnose, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y en a qui vont trouver aussi leur salut en allant porter plainte, ça peut être une solution aussi. Et je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que il y a des choses qui peuvent être mises en place et qui permettent de s'en sortir. On n'est pas victime à vie. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est très important de dire oui, j'ai été victime, oui, j'ai eu ce statut-là, mais c'est très important de dire également qu'on peut s'en sortir et qu'on apprend à vivre avec et qu'il y a du monde pour nous aider dans ce chemin-là.
C'est aussi pour toi, ce combat-là que tu mènes, c'est aussi une manière d'en sortir, d'en faire quelque chose.
Totalement, tu vois, des fois je me dis mais Emma, est-ce que tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que je me suis dit là encore il y a quelques jours, je me suis dit mais est-ce que j'arrêterai pas, tu vois, ce que je fais sur les réseaux parce que tu vois, pour me couper un peu de tout ça, pour arrêter de ressasser par rapport au haut niveau et tout, mais pour moi c'est vraiment thérapeutique ce que je fais et c'est une manière de me dire purée, j'ai vécu des choses qui sont très difficiles, maintenant il faut que j'en fasse quelque chose de positif et qui puisse servir aux autres, et c'est ce que je fais, même, tu vois, à travers ce podcast, le fait d'en parler et de me dire, voilà, ça va potentiellement toucher des gens, et ben c'est ce qui me donne de la force, et c'est ce que j'ai envie de communiquer aujourd'hui, quoi.
Oui, puis essayer de protéger les suivantes, en fait, parce que, tu vois, moi, quand je pense à ma petite fille, quand je pense aux jeunes, quand je pense à d'autres témoignages que j'ai eu et tout, faut éloigner, en fait, ces prédateurs, faut éloigner tous ces comportements, parce que le sport, c'est magnifique, c'est de belles valeurs, mais il faut pas, alors, il faut le chasser de la société globalement, mais dans le sport notamment, il faut trouver des moyens. Il y a des instances fédérales, des clubs, etc., qui doivent aussi agir pour que ça devienne des endroits sains, quoi.
Ouais, totalement. Il y a, alors ça se met en place petit à petit. Là, j'ai un responsable de la Fédé d'athlée avec qui on a eu un rendez-vous pour pouvoir parler de ce qu'on pouvait mettre en place au niveau de la Fédé pour pouvoir mieux protéger les athlètes. Donc ça se met en place petit à petit et c'est grâce aux personnes qui parlent en fait. C'est grâce à une Catherine Moyon de Bac qui parlait dans les années 90, c'est grâce aux filles qui ont parlé dans le documentaire et à plein d'autres femmes qui ont eu le courage de raconter ce qui s'était passé et petit à petit tout ça, ça va infuser dans les institutions sportives qui vont avoir d'autres choix que d'agir et que de mettre des politiques concrètes en place.
La ministre est une femme, la ministre des Sports est une femme. Est-ce que tu as espoir qu'elle change, qu'elle arrive à faire bouger les choses? Parce qu'elle essaie de faire bouger les choses dans des fédérations, et on parle beaucoup de harcèlement dans la fédération de foot, dans d'autres fédérations, où on voit qu'ils sont en train de dire, attendez, vous êtes sous notre tutelle, il y a quelque chose quand même, on a un contrat ensemble. Est-ce que tu as l'impression que ça bouge de ce côté-là aussi?
Oui, ça bouge. Il y a eu l'ancienne ministre qui a mis en place la cellule, ça s'appelle Cellule Sport. Et donc, ça permet beaucoup plus facilement maintenant de dénoncer des entraîneurs ou des athlètes ou quoi qui sont auteurs de violences. Les entraîneurs sont quand même, enfin, en tout cas, les auteurs de violences sont beaucoup plus facilement mis de côté. Donc, il y a quand même des choses qui bougent petit à petit. Les ministres des Sports, ça a toujours été un ministère qui a eu à sa tête beaucoup, beaucoup de femmes. Et j'espère que oui, cette féminisation petit à petit des instances dirigeantes va permettre de mettre en place des politiques qui puissent nous protéger.
J'ai une dernière question parce que tu as côtoyé beaucoup d'athlètes à l'étranger. Enfin, j'imagine en tout cas que ça voyage, etc. Peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas sensibilisé à ça. Est-ce que tu as le sentiment que la France est un pays à part ou c'est un petit peu partout pareil ou il y a des pays qui sont mieux que ça?
Je pense que c'est partout pareil, qu'il y a des violences partout. Je pense à une collègue anglaise qui a créé une association, etc., pour que les entraîneurs qui ont été reconnus comme auteurs de violences soient bannis à vie. Donc il y a des violences partout, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Et je pense qu'en fait, vraiment, la prochaine étape, c'est de créer de réels collectifs, des collectifs au niveau national, au niveau de la France. Il faudrait que beaucoup plus de sportives puissent créer une communauté pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on est prête à agir. Peut-être que ça se fera aussi à un moment donné au niveau international, je l'espère. Et je pense vraiment que c'est très bateau de dire ça, hein. Mais je pense vraiment que c'est en étant à plusieurs qu'on va arriver à imposer le fait que les choses changent tout simplement.
Surtout qu'on pourrait dire que dans les clubs, on pourrait imposer, alors de là presque ça s'impose réellement, mais des chartes d'éthique. Alors je ne sais même pas si ça existe ou pas, mais de dire pour être affilié à la fédération française, il faudrait y avoir ça, il pourrait y avoir des systèmes en fait, en tout cas de vraiment d'engagement et de dire que les présidents aussi les responsabilisaient peut-être aussi sur le truc, de dire s'il y a des remontées par rapport à un entraîneur, que souvent d'ailleurs il y a des clubs où l'entraîneur peut être le seul salarié dans le club, hein, où c'est vraiment une personne qui est... C'est pas n'importe qui quand c'est l'entraîneur. Alors quand c'est le président, on dit que c'est pas n'importe qui, mais quand c'est l'entraîneur, si c'est le seul salarié, et qu'en plus il y a quelques jeunes qui performent et qui l'entraînent, il y a toujours ce côté-là, mais il y a toutes les échelles, j'ai envie de dire, de commandement. Je vois vraiment l'armée, tu vois, là, je me dis, gauche, droite, gauche. Peut-être parce qu'hier, j'ai fait un entraînement de groupe où ils étaient un peu droite, gauche, etc. Bref, mais en tout cas, où toute la chaîne de commandement, j'ai envie de dire, pourrait agir, dire maintenant, il faut vraiment qu'on s'en fasse un enjeu de protection et que nos jeunes, ils rentrent avec le sourire, mais qu'ils en repartent aussi avec le sourire en étant construits en tant qu'hommes et femmes et pas en étant construits en tant qu'hommes et femmes qui ont pu être victimes de ça.
Ouais, totalement. Il y a, c'est vraiment à toute la, tout, tous les maillons de la chaîne de se bouger et d'aller dans ce sens-là, d'en faire même une priorité. Il y a des contrôles d'honorabilité qui sont mis en place par le ministère. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a la possibilité de voir si tel ou tel entraîneur a eu des précédents avec la justice concernant des violences sexuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place aussi. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur la prévention, sur la sensibilisation, sur on peut mettre aussi en place des personnes qui seraient référentes pour pouvoir accueillir la parole au niveau des clubs, au niveau des comités départementaux, régionaux. Enfin, il y a encore plein de choses à mettre. Et je pense que oui, c'est à tous les maillons de cette chaîne de se mettre en mouvement.
Et ça te dirait, enfin, je sais pas après si c'est possible ou pas, mais ça te dirait pas d'avoir un club à toi où t'es les jeunes filles, hein. Non, mais sincèrement, tu vois, d'être un entraîneur, mais je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu sais, bienveillant, tu sais, qui montre que c'est possible de le faire.
Ouais, bah oui, c'est vrai que j'ai déjà pensé, je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir mon petit groupe et tout, et mon petit groupe, non, parce qu'un petit groupe avec des athlètes qui s'épanouirait, c'est sûr, mais je suis plus, tu vois, là on est en train de voir pour créer une association avec Sarah, une des filles du documentaire. Et c'est vraiment par ce biais-là qu'on a envie d'agir encore plus et qu'on a envie de pouvoir à la fois accompagner les victimes dans le milieu de l'athlée, faire de la prévention, de la sensibilisation. Enfin, il y a plein de choses à faire et nous on a envie de continuer à agir dans ce sens-là.
C'est la dernière question. Tu crois qu'un jour ton combat s'arrêtera ou...
Non, ça s'arrêtera jamais. D'une part parce que avant que les choses changent réellement, je pense que ça fera bien longtemps que je serai plus de ce monde avant de voir de réels changements. Et puis parce que ça m'habite en fait. C'est en moi, ce sera en moi toute ma vie et c'est passionnant quelque part. J'ai quand même envie parce que c'est vrai qu'on a parlé de choses qui sont très dures dans cet épisode et ça peut paraître un peu peut-être un peu lourd, un peu démoralisant. Mais j'ai quand même envie de dire que il y a de plus en plus de personnes qui se bougent. Il y a de très belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure des réseaux, comme quoi ça peut être une pression supplémentaire, mais c'est aussi un outil qui est formidable et qui a permis la libération de la parole. Et moi, ça me passionne tout ça et ça me galvanise et ça passionne et ça galvanise beaucoup de monde aussi. Et j'ai envie absolument de continuer là-dedans.
Bon, écoute, j'espère quand même que tu verras des résultats avant ta mort parce que tu es jeune.
Oui, quand même.
T'as 28 ans, 29 ans, c'est ça
Ouais.
Enfin, attends, t'as une espérance de vie, te reste encore 80 ans à vivre, non, peut-être un peu moins. Je me dis, j'espère avant que ça changera, tu vois, pour ma fille, ouais. Pour les jeunes adolescentes que je vois courir à droite à gauche, tu vois, qui prennent du plaisir et tout. J'espère qu'on aura un changement, en tout cas, je le souhaite, et que au moins, tu vois, est-ce qu'on peut changer le comportement humain? Ça, je sais pas, mais que on puisse faire rentrer et protéger beaucoup plus. Et peut-être aussi changer aussi, tu vois, on parlait des vêtements, parce qu'on le voit, c'est dans le beach volley, je crois, qu'elles ont râlé. Il y a des sports où on sent aussi qu'il y a un truc, on dit, bah non, on n'a plus envie de ça, ou il y a eu le coup des jupes en tennis, enfin, il y a eu plein de trucs. C'est dingue, en fait, parce que quand on regarde tous les sports, comment la femme est utilisée pour son image, comment elle est jugée pour son image et tout. Et alors, il y a des sites de sport en plus où il y a des commentaires, mais qui sont vraiment... Je pense que tu peux battre le record du monde, on va te dire, ouais, mais t'as vu, son short était de traviole.
C'est des débats qu'on a que sur les vêtements des femmes. Sur les vêtements des hommes, je n'entends jamais aucun débat, quoi.
Ouais. Bah ouais, mais bon, c'est, je sais, c'est, et bon, j'ai dire en plus, tu vois, l'autre jour, je me suis fait la réflexion, je regardais une émission, je dis, à la fin, ils finissent tous torse poil. Ils enlèvent tous leur t-shirt, etc. Mais tu sais, c'est comme l'image, comme il s'appelle Kevin Mayer, quand il bat son record du monde, il fait Monsieur Muscle, il enlève le truc et tout. T'as cette puissance de l'homme super puissant et tout. Et à côté, tu mets la femme en petit short, etc., qui fait son sourire avec ses ongles, etc., quel maquillage et tout. T'as une espèce d'image qui représente la société, qui est dingue. Mais j'espère quand même que ça changera largement avant ta mort. Hein. En tout cas, je souhaite. Je sais que ton combat va faire avancer les choses parce que c'est pas possible. La parole doit se libérer. Il y a trop de choses. Moi, j'étais vraiment heureux, même si le sujet est dur. D'habitude, on a des sujets plus gays, mais c'est un sujet qui est pour moi important parce que je te le dis, tu vois, j'en ai des frissons encore. Tu vois, d'en parler. L'autre jour, quand j'ai vu le documentaire, j'ai dit putain, c'est pas possible, quoi. Tu vois, ça m'a foutu les boules, quoi. Et vraiment, je te remercie du temps que tu as passé avec nous pour nous expliquer ça. Je te remercie aussi pour celles qui trouveront de l'aide auprès de toi, tu vois, parce que il y en a besoin et on voit vraiment qu'il y en a besoin. Et puis, quand même, il faudrait, comme je te demande un dernier truc, c'est où est-ce qu'on te suit, tu vois, pour t'aider, pour témoigner, pour faire passer le message, etc.
Ouais, c'est beaucoup sur Instagram, donc emma.oudiou. Et je suis, si vous voulez m'envoyer un petit message ou quoi, ou suivre ce que je fais, l'actualité que j'ai, etc., ce sera beaucoup là-bas.
Je mettrai un petit lien aussi vers, bien sûr, les vidéos, ta chaîne YouTube, tout ça. Tu disais que tu étais blessée, donc ça court pas beaucoup, mais enfin, t'as pas abandonné la course, quoi.
Non, j'aime toujours autant ce sport et j'y reviendrai bientôt, j'espère.
Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite que ton combat avance. Je te souhaite quand même que tu aies de moins en moins de témoignages au fil des ans, au fil du temps. Voilà, hein, que en tout cas ce soit des témoignages du passé et pas des témoignages de choses qui arrivent là juste sur l'instant. Espérons que t'aies pas encore des nouvelles vidéos. Tu dises que t'as appris que tel entraîneur revenait alors qu'il avait été banni, etc. Parce que c'est dramatique, je trouve. Pour aider et pour le message que ça transmet. Merci beaucoup aussi pour le témoignage, de nous avoir expliqué tout ça, sensibilisé à cette cause. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Notre invité, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, je ne peux pas dire qui c'est, je ne pourrais pas dire qui c'est, tu vois. Je suis très embêté sur ce coup-là, mais je n'ai pas eu la confirmation. Mais en tout cas, j'espère. Donc, je ne vais pas dire qui c'est et je te remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Et Emma, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup.
Merci Bertrand, à bientôt.